Somnifère, le podcast.
Somnifère, c'est un podcast en deux parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somniferelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit.
Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer.
L'argent fait-il le bonheur en ménage ? Et est-il à oublier les défauts de son partenaire ? Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 7 octobre. Et ce soir, Somnifère vous raconte Le Voyage de Noces, une nouvelle de Nathaniel Hawthorne, traduite par Édouard Auguste Spohl. Mais avant cela, place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Prenez quelques secondes pour vous mettre bien à l'aise dans votre lit. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Ce soir, notre séance de relaxation va se concentrer sur un exercice de visualisation. Prenez une nouvelle grande inspiration par le nez et expirez à votre rythme. Scannez à présent votre corps, de la tête aux pieds, à la recherche de tension et tentez de vous relâcher complètement. Commencez par la tête, puis le cou et la nuque, puis votre poitrine, les muscles de votre dos, votre ventre, vos cuisses, vos jambes, puis vos pieds. Soyez attentif aux sensations que la conscience de votre corps physique vous procure. Laissez votre corps s'alourdir davantage, jusqu'à devenir très lourd sur le matelas. Prenez une grande inspiration par le nez, puis expirez à votre rythme. Reprenez à présent une respiration naturelle, mais restez conscient de l'air qui entre et sort de vos poumons. À présent, imaginez que vous vous trouvez sur une plage. La température est agréable, le soleil est doux, la mer est calme. Vous vous trouvez à présent au bord de l'eau et sentez sur vos pieds les vagues aller et venir. L'eau submerge vos pieds qui s'enfoncent davantage dans le sable mouillé. Votre respiration commence à se synchroniser avec le va-et-vient des vagues. Vous êtes calme, détendu, ancré et faites partie du tout. Vous voyez l'eau aller et venir, comme les heures et les semaines qui se répètent inlassablement, sans jamais se fatiguer, comme le temps qui passe sans jamais prendre de pause. À chaque passage de l'eau sur vos pieds, il s'enfonce davantage dans le sable mouillé. Vous vous sentez connecté aux énergies naturelles. Vous pouvez entendre le calme bruit des vagues qui s'écrasent au bord de la plage, de l'eau qui s'entrechoque et se divise pour mieux ne faire qu'une. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Alors que vous regardez le ciel, le soleil semble prendre sa retraite et ses rayons orangés se reflètent doucement sur l'eau calme et paisible. La nuit va bientôt tomber et les étoiles envahir le ciel. Vous êtes calme et détendu. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil.
L'histoire du soir.
Cela m'a toujours attristé de voir combien les gens les plus sensés agissent sottement lorsqu'ils songent à se marier. Ils veulent se torturer l'esprit à chercher dans celle qui doit être leur compagne des qualités de convention, mille petits avantages extérieurs qu'il est bien difficile de trouver réunis dans une seule personne, fût-elle accomplie d'ailleurs. C'est le comble de l'absurdité. Et qu'advient-il ? C'est que ces hommes, affamés de perfection, arrivent à leur insu jusqu'au seuil de la vieillesse sans s'être décidés à faire un choix, et que dès lors, ils sont condamnés à vieillir dans la solitude. Il est évident qu'à part quelques exceptions bizarres, le bonheur ne peut se trouver que dans l'état de mariage. Tenez pour certain que les objections les plus fortes en apparence, dirigées contre cette institution, s'évanouissent d'elles-mêmes quand on les passe au crible du raisonnement. Et croyez que l'amour légitime est capable d'opérer des miracles en faisant disparaître les incompatibilités les plus prononcées. En voulez-vous un exemple personnel ? J'étais précisément tel, dans ma jeunesse, que je vous conseille de ne pas être. J'étais doué d'un tact exquis, d'une sensibilité toute féminine, et je n'exagère rien en affirmant que Thomas Bullfrog était plus femme sous ce rapport que la plus nerveuse des petites maîtresses. La finesse de mon goût était telle, et les perfections que je voulais trouver dans celle qui porterait mon nom étaient en si grand nombre, qu'il y avait gros à parier que je ne trouverais jamais une femme à mon gré. En un mot, j'étais si difficile à contenter que si quelque houri se fût donné la peine de descendre du paradis pour m'offrir sa main, il n'est pas certain que je l'eusse accepté. J'avais donc toutes les conditions requises pour vivre et mourir dans le célibat, lorsque par le plus grand hasard du monde, étant allé faire un petit voyage dans les provinces, je fus engoué, ravie, captivée, saisie, mariée, le tout en moins d'une quinzaine, à celle qui s'appelle aujourd'hui Madame Bullfrog. Cette affaire avait été conclue si rapidement que je dus créditer ma fiancée des qualités qu'elle n'avait pas eu le temps de faire paraître et fermer les yeux sur quelques légers défauts qui n'avaient pu m'échapper. J'appris bientôt, comme on va le voir, à estimer les imperfections de Madame Bullfrog à leur juste valeur. Le jour même où nous fûmes unis, nous louâmes deux places dans le coupé d'une diligence pour nous rendre au siège ordinaire de mes affaires. Il n'y avait pas d'autres voyageurs, aussi étions-nous aussi libres que si j'avais loué une chaise pour notre voyage de noces. Ma femme était charmante, avec sa capote de soie verte et sa pelisse garnie de fourrure. Ses lèvres purpurines laissaient entrevoir, lorsqu'elle souriait, une double rangée de perles du plus bel Orient. Telle était l'ardeur de ma passion que, profitant de ce que nous étions aussi seuls qu'Adam et Ève dans le paradis terrestre, à peine sortis du village, je pris la liberté de dérober à ma compagne un doux baiser, profanation dont ses yeux ne semblèrent point irrités. Encouragé par cette indulgence, je relevai légèrement la capote verte sur son front blanc et poli, j'osai passer délicatement mes doigts dans les boucles brunes et soyeuses de ses cheveux, qui réalisaient à mes yeux ce que j'avais rêvé de plus idéal en ce genre. « Cher ami, me dit tendrement Madame Bullfrog, vous allez me décoiffer. »« Non, ma douce Laura, répliquai-je, jouant toujours avec sa chevelure, votre main de fée n'enroulerait pas plus artistement une boucle que la mienne, et je me propose même le plaisir d'empapilloter chaque soir vos cheveux en même temps que les miens. » Monsieur Bullfrog, répéta-t-elle, je vous prie de laisser mes cheveux tranquilles. Cette fois, cela était dit sur un ton décidé auquel elle ne m'avait pas encore accoutumé. En même temps, elle emprisonna ma main dans une des siennes pour l'éloigner du fruit défendu, et de l'autre lissa soigneusement son bandeau. Comme je suis très remuant et qu'il faut toujours que j'ai quelque chose dans les mains, une fois privé des boucles de ma bien-aimée, je cherchais des yeux ce qui pourrait bien me servir de jouet. Sur la banquette était un de ces élégants paniers dans lesquels les voyageuses, trop délicates pour s'asseoir à la table commune, ont l'habitude de placer des petites provisions telles que pain d'épices, biscuits, jambon froid et autres victuailles propres à soutenir l'estomac durant la route. Soulevant donc le couvercle du panier, je glissai la main sous le journal qui en recouvrait soigneusement le contenu. « Qu'est-ce que cela, ma chère ? » demandai-je. « Une bouteille de Calidor, » répondit ma femme, en me prenant la corbeille des mains pour la replacer sur la banquette. Il n'y avait aucun doute à émettre sur le mot que venait de prononcer ma femme, et pourtant ce Calidor sentait diablement le Xérès. J'allais lui exprimer ma crainte que cette lotion ne lui gâtât le teint, lorsqu'un accident imprévu vint nous menacer inopinément de quelque chose de plus grave qu'une écorchure. Notre Thomédon, sans y prendre garde, était monté sur un tas de cailloux et avait culbuté si complètement la voiture que nos pieds étaient à la place qu'auraient dû occuper nos têtes. Que devint ma raison dans cette triste occurrence ? Je ne saurais trop le dire, vu qu'elle a la fâcheuse habitude de toujours m'abandonner dans les moments où j'ai le plus besoin d'elle. Or, il arriva que, dans le trouble où me jeta cette catastrophe, j'oubliais de la manière la plus complète qu'il y eût au monde une Madame Bullfrog. La pauvre femme, c'est un sort commun à bien d'autres, servait en ce moment-là de marchepied à son époux. Après quelques efforts, je parvins à sortir de cette boîte et je rajustai instinctivement ma cravate lorsque j'entendis le bruit d'un soufflet tombant d'aplomb sur l'oreille du coucher. « Tiens, gueux, attrape cela !» « Tu m'as défiguré, Goujat !» En même temps, un second soufflet dirigé sur l'autre oreille fut si malheureusement envoyé qu'il tomba en plein sur le nez du pauvre diable, dont le sang jaillit avec abondance. Qu'était-ce que cette étrange apparition, infligeant au conducteur une si rude correction ? J'avoue que c'était une énigme pour moi. Les soufflets avaient été appliqués par une personne dont la tête chenue était çà et là parsemée de quelques poils grisonnants, au teint bileux et qui pouvait aussi bien appartenir à la plus belle moitié du genre humain qu'à l'autre. sa voix était cassée, comme enrouée par le manque de dents, et ses gencives démeublées figuraient assez bien deux pieds de veau. Quel pouvait être ce monstre ? J'omets la circonstance la plus terrible pour moi, c'est que cet être, quel qu'il fût, avait une pelisse pareille à celle de Madame Bullfrog, et de même, qu'elle une capote verte qui, s'étant détachée par suite de la violence de ses gestes, pendait sur ses épaules. Dans ma frayeur et ma confusion d'esprit, j'imaginais que le vieux Nick avait subtilisé ma femme et s'était glissé dans ses vêtements. Cette idée prenait d'autant plus de consistance que Madame Bullfrog avait disparu sans qu'il restât la moindre trace de cette femme adorée. Allons, monsieur, dépêchez-vous d'aider ce misérable à redresser sa voiture, me dit l'apparition. Puis jetant les yeux sur trois paysans qui se tenaient à quelque distance, tranquilles spectateurs de cette scène. Eh bien, vous autres, qu'avez-vous à rester ainsi plantés sur vos jambes quand vous voyez une femme dans un pareil embarras ? Les paysans, au lieu de fuir, comme je m'y attendais, accoururent avec empressement et commencèrent à soulever la caisse de la voiture. Je me mis également à l'œuvre, malgré mon peu de force et l'exiguïté de ma taille. Enfin, le conducteur suivit mon exemple, bien que le nez lui saignât encore avec abondance, dans la crainte sans doute qu'un troisième soufflet ne lui brisât le crâne. Et cependant, tout abîmé qu'était le pauvre garçon, il jetait sur moi des regards de commisération, comme si ma position avait été plus déplorable encore que la sienne. Ne pouvant m'ôter de l'idée que je rêvais tout éveillé, je guettais le moment où les roues retomberaient sur le sol pour y placer deux doigts de la main gauche. La douleur m'eût infailliblement réveillé. « Que faisons-nous là, puisque tout est réparé ?» demanda derrière moi une voix pleine de douceur. « Merci de votre assistance, mes amis. Comme vous transpirez, monsieur Bullfrog, laissez-moi essuyer votre visage. Il ne faut pas prendre cet accident trop à cœur, cocher. Nous sommes encore bien heureux de n'avoir point le nez cassé. » « Il paraît que le mien compte pour rien, » murmura le conducteur en se frottant l'oreille et se tâtant le nez pour savoir s'il tenait encore à son visage. « Ma foi, » ajouta-t-il, « je crois que cette femme est sorcière. » Le lecteur ne le croira pas, et c'est cependant la plus exacte vérité. Ma femme se tenait debout à côté de moi, avec ses belles boucles d'ébène et ses rangées de perles entre des lèvres vermeilles, mieux encore avec son céleste sourire. Elle avait sans doute réussi à reprendre au monstre sa pelisse et sa capote, et c'était bien, des pieds à la tête, l'épouse aimée que j'avais à mes côtés au moment de la culbute. Comment avait-elle disparu ? Par qui avait-elle été remplacée ? Depuis quand était-elle revenue ? C'était là des problèmes trop embrouillés pour que mon pauvre cerveau pût les résoudre. Ma femme était là, ce fait seul était positif. Il ne me restait plus qu'à remonter avec elle dans la diligence et à continuer d'être son compagnon de route, non seulement durant ce voyage, mais encore pour toute ma vie. Comme le cocher fermait sur nous la portière du coupé, je l'entendis crier aux trois paysans. « Croyez-vous qu'on soit à l'aise en cage avec un chat-tigre ?» Cette question ne pouvait avoir de rapport avec ma situation. Cependant, tout déraisonnable que ce fût, mon enthousiasme était loin d'être le même que lorsque, pour la première fois, j'appelais mienne la chère Madame Bullfrog. C'était bien la plus douce des femmes, l'ange du bonheur conjugal, mais je craignais qu'au beau milieu d'un amoureux transport, la tête de l'ange ne fît place à celle du fantôme. Je me rappelais involontairement ce conte dans lequel une fée paraît tantôt sous la figure d'une belle femme, tantôt sous les traits d'un monstre hideux, et je regardais Madame Bullfrog dans l'attente de quelque effroyable transformation. Pour distraire mon esprit de cette affreuse pensée, je ramassai le journal qui couvrait les provisions et sur lequel, en se brisant, la bouteille de Calidore avait laissé les traces non équivoques du liquide qu'elle contenait. Ce journal avait 2 ou 3 ans de date, cependant j'y découvris en le parcourant un article de plusieurs colonnes qui attira singulièrement mon attention. C'était un procès, et il s'agissait d'une promesse de mariage dont on demandait la nullité. Au nombre des preuves à l'appui et autres documents, se trouvaient de brûlants extraits d'une correspondance amoureuse. La fille abandonnée avait comparu en personne devant la cour pour montrer au juge quelle était l'ingratitude de son amant, eu égard aux preuves d'amour qu'il avait reçues d'elle. Elle concluait à des dommages d'intérêt que sa partie aimait mieux payer que de supporter, sa vie durant l'affreux caractère de la plaignante. En lisant le nom de cette dernière, un horrible soupçon traversa mon esprit. « Madame, » dis-je en plaçant le papier sous les yeux de Madame Bullfrog. Et en ce moment, je dus avoir l'air terrible. « Madame, » répétai-je les dents serrées, « étiez-vous la demandeuse en cette cause ?»« Comment, mon cher Bullfrog ? Mais je croyais que tout le monde connaissait cette affaire. » En couvrant mon visage de mes deux mains, je me mis à gémir comme si j'allais rendre l'âme. Moi, l'homme le plus délicat et le plus difficile, moi dont l'épouse devait être la plus idéale et la plus accomplie des femmes, moi qui voulais m'enivrer de l'étincelante rosée de ce bouton de rose qu'on appelle le cœur d'une vierge, tout me revint alors à l'esprit. Et les boucles d'ébène et les dents de perles, et le calidore, et le nez du cocher, et ces tendres secrets d'amour qu'elle était allée divulguer à plaisir devant les juges, le jury et des milliers d'assistants. Mes gémissements redoublèrent. « Monsieur Bullfrog, » me dit la femme. Et comme je gardais le silence, elle me prit gentiment les mains dans les siennes et me regarda bien en face. « Monsieur Bullfrog, » reprit-elle avec douceur, mais cependant avec toute la décision dont elle était susceptible. « Laissez-moi chasser ce nuage de votre esprit et vous prouver qu'il est de votre intérêt d'être aussi bon mari que j'ai l'intention d'être pour vous une bonne femme. » Vous avez découvert dans votre compagne quelques légères imperfections. Soit. Mais qu'aviez-vous donc espéré ? Les femmes ne sont pas des anges. S'il en était ainsi, elles ne se marieraient qu'au ciel, ou tout au moins elles se montreraient plus difficiles dans leur choix. Pourquoi donc alors cacher ces imperfections ? Dis-je convulsivement. Oh, que vous êtes un naïf petit homme, répondit-elle en me donnant une légère tape sur la joue. Où avez-vous qu'une femme découvrait ses défauts avant la noce ? Savez-vous que vous êtes fort amusant ? Mais ce procès, grommelai-je. Eh bien, qu'a-t-il de déshonorant pour moi ? Est-il possible que vous jugiez cette affaire à un point de vue aussi faux ? Je vous avoue que je ne m'attendais pas à cela de votre part. Comment ? Vous m'accusez parce que je me suis défendu d'une manière triomphante contre la calomnie et que j'ai obligé la cour à venger l'offense faite à mon honneur ? Mais, continuai-je en me reculant un peu, dans la crainte que tant de contradictions n'exaspérassent ma chère moitié. Mais ma chère amie, n'aurait-il pas été plus digne de garder le silence et d'accabler cet homme de votre dédain ? Bien jugé, monsieur Bullfrog, fit ironiquement ma femme. Et si j'avais agi de cette manière, dites-moi, je vous prie, où seraient les 5 000 $ qui vont vous approvisionner vos magasins ? Sur votre honneur, « Madame Bullfrog, demandai-je en haletant comme si ma vie eût été suspendue à ses lèvres. « Ne faites-vous pas erreur, c'est bien 5 000 $ que vous avez dit ?»« Sur mon nom et sur mon honneur, » répliqua-t-elle. « Le jury m'accorda tout cela de la fortune de ce coquin, et j'ai gardé tout cela pour mon cher Bullfrog. » « Alors, chère femme, » m'écriai-je au paroxysme de la joie, « laisse-moi te serrer sur mon cœur. » La paix du ménage est désormais assurée, et j'oublie tes imperfections, puisqu'elles sont produit un si beau résultat. Bien plus, je me réjouis à présent de l'injustice qui a causé ce procès béni. Je suis heureux à vos côtés. »
Et finalement se mit à laper à longs traits l'eau de la source. « Rien à faire, » reprit l'un des deux hommes, « le maître du chien ne peut être loin. » « Alors, buvons un coup et décampons, » répondit l'autre. Celui qui tenait le poignard cacha son arme dans une large poche d'où il tira un flacon rempli de liqueur, avec un bouchon d'étain vissé sur le goulot. Tour à tour, chacun le colla à ses lèvres, puis ils s'éloignèrent, échangeant force colibées sur leur crime avorté. Quelques instants après, ils ne pensaient plus à cette aventure. Ils ne se doutaient point que l'ange de mémoire avait inscrit déjà en caractère ineffaçable leur criminelle tentative pour porter contre eux au dernier jour un terrible témoignage. Quant à notre ami David, il continuait à dormir, ignorant que l'ombre de la mort s'était étendue sur lui. Cependant, son sommeil était moins profond. Une heure de repos avait amplement réparé la fatigue du matin et rendu à ses membres appesantis leur élasticité primitive. Il commençait à se retourner, remuant les lèvres comme il parlait en songe, étendant un bras, une jambe, bref, se livrant à tous ces petits mouvements qui présagent un réveil prochain. Un bruit de roue, qui s'approchait de plus en plus retentissant, vint brusquer le dénouement. David se leva en sursaut et redevint subitement maître de ses idées. C'était la diligence. « Hé, conducteur, cria-t-il, avez-vous encore une place ?»« Oui, sur l'impériale. » David escalada lentement la voiture et se jucha jusque sur la banquette. Le voilà donc, roulant joyeusement vers Boston, sans jeter un regard à ce bosquet où, durant une heure, il avait été sans s'en douter le jouet du sort. Il ne savait pas que l'image de la fortune était venue se mirer dans l'onde limpide de la source. Il ne savait pas que le doux murmure des eaux s'était confondu avec les soupirs de l'amour. Il ignorait enfin que le spectre de la mort avait un instant menacé de les rougir de son sang. Et tout cela dans l'espace d'une heure.
Bonne nuit. Bonne nuit.